Alors, je vous le disais, on a une dizaine de conférences aujourd'hui. Donc, à vos marques, soyez prêts, partez. Notre premier invité, et non le moindre, est le docteur Harold Olney. Il est hémato-oncologue au CHUM, donc à l'hôpital Notre-Dame. Il est chef du département hématologie médecine transfusionnelle et il est professeur adjoint au département de médecine de l'Université de Montréal. Il va essayer de nous faire un cours de lymphome 101. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Merci.
Alors, j'ai un peu peint sur la planche ce matin. Les sujets, les objectifs que j'avais à couvrir sont assez larges. Je vais essayer de ne pas générer du retard. Il y a beaucoup d'informations. Mes diapositives vont être disponibles sur le site web par la suite. Alors, prenez pas des notes. Puis, comme je dis, là, c'est vraiment pour essayer de comprendre les lymphomes non-Hodgkiniens. Déjà, il y a quelques éléments qui m'ont été discutés, donc je vais sauter rapidement. Alors, c'est quoi un lymphome? C'est vraiment un groupe de cancers qui origine dans le système lymphatique. Donc, les systèmes lymphatiques comprennent la moelle osseuse, les ganglions. C'est un réseau de canaux, comme des vaisseaux sanguins, il y a des vaisseaux lymphatiques là, qui guident le sang. Alors, juste, on a un petit délai avec... Alors, on voit que le réseau lymphatique couvre tout le territoire et on a des ganglions stratégiquement positionnés partout dans le corps pour être capable de vraiment transporter un matériel infectieux ou étranger aux lymphocytes qui vont aider à combattre, qui fait partie la pierre angulaire de notre système immune qui va rejeter des bactéries. Évidemment, c'est des cellules qui changent rapidement. Et puis, on va avoir... le lymphe va rentrer dans le ganglion, puis c'est organisé de façon très spécifique. On voit que le lymphe rentre dans ce qu'on appelle des nodules corticales et ils vont créer un genre d'usine où on produira les cellules qui vont aller contrôler une infection. Évidemment, au centre, c'est l'activité centrale de cette usine de production et on appelle ça le follicule. Et puis, des cellules folliculaires ont leur origine là. Autour du follicule, on a des cellules qu'on appelle descriptivement des manteaux ou une zone marginale. Et puis, donc, c'est tout très descriptif, basé sur la fonction de cette usine là, qui est vraiment de nous aider dans notre système de quotidien de contrôler la maladie infectieuse de tous les jours. Alors, on a déjà entendu ça, là, c'est le cinquième néoplasie. Il y a 8000 cas estimés cette année. Pour mettre en paramètre, là, c'est 186 000 cas de cancer par année qu'on voit au Canada. Malheureusement, le décès, c'est quand même... et ça diminue. Je suis très heureux de dire qu'au cours des années que je fais cette formation, le pourcentage de décès reliés à lymphome diminue chaque année, mais encore beaucoup trop. Puis si on en regarde, il y a 75 000 patients qui vont mourir de cancer, dont à peu près 3 000 patients avec des lymphomes. Il y a une petite influence de sexe et puis on voit que les hommes sont un peu plus touchés. Ça dépend du type de lymphome. Il y en a qui ont plus ou moins d'incidents chez les hommes. On sait que chez l'homme, la maladie, depuis 1998, continue à augmenter d'à peu près 1%. Ce qu'on vient de noter dans les statistiques dernièrement, que chez les femmes, on voit qu'il y a une stabilité qui n'était pas le cas dernièrement. Donc, il y a quelque chose qui change. L'épidémiologie de ça s'en vient. Puis, comme on a montré tout à l'heure, c'est vraiment le cinquième cancer. Il y a une chute relativement rapide. C'est pour ça qu'il y a moins de présence. Puis, la Fondation, on essaie de vraiment remettre le lymphome sur la page. Il y a beaucoup trop de monde qui sont quand même touchés. Donc, les causes de lymphome, je n'aurai pas le temps dans mon dans les objectifs, mais juste vous dire que la majorité, on ne le sait pas. Il y a certains facteurs prédisposants, congénitaux, des défauts du système immune, acquis ou congénital. On est né avec ça, ou on donne des immunosuppresseurs, comme pour des greffes d'organes solides. Le VIH peut nous donner ça, des maladies auto-immunes, tout ce qui touche le système immune, des expositions à des chimiothérapies ou des radiothérapies, des éléments qui vont causer des toxicités au niveau de l'ADN, qui vont muter les cellules, sont associés. Certains pesticides des années 60-70, qui sont maintenant bannis au Canada, ont été associés avec ça. Rares infections, l'hépatite C, par exemple, ou des, l'H. pylori dans l'estomac, une infection chronique. Comme on vous a dit, c'est 50 différentes maladies, mais pour simplifier, pour vraiment vous parler aujourd'hui, il y a deux formes majeures, le lymphome non-Hodgkinien et la forme Hodgkinien. Ça représente à peu près 85 versus 15 Et puis, encore une fois, si on regarde la cellule, les lymphocytes sont des B et des T, puis le B est encore prédominant avec 85 qui sont des lymphocytes B par rapport à 15 qui sont des lymphocytes T. Ils sont vraiment différents. Donc, juste pour vous dire, ça, c'est les 50 différentes formes. Là. On ne parlera pas de tout ça. Là. Dans une demi-heure, c'est impossible. Alors, on va les classifier plutôt comme lymphome indolent, agressif et des cas spéciaux. Évidemment, le lymphome d'Hodgkin est un chapitre à part. Et je n'aurai pas le temps de vraiment rentrer en détail avec aucune des sous-formes, mais vraiment vous donner juste un survol. Alors, les lymphomes non-Hodgkiniens, adultes, parce que la pédiatrie, on va entendre avec Josette tout à l'heure, que c'est une forme un petit peu différente. Mais grosso modo, la moitié des patients sont de forme plus agressive et la moitié de forme indolente. On a une vieille diapo, là, puis les noms ont changé un petit peu depuis ce temps-là, mais on voit qu'il y a certaines formes qui sont plus fréquentes. Et le lymphome diffus à grande cellule et le folliculaire, c'est ce que vous allez rencontrer le plus souvent. Par contre, il y a des lymphomes qui reviennent relativement fréquemment, le manteau, la zone marginale. Donc, tous ces lymphomes-là, et comme je vous ai dit, il y a à peu près 15 qui vont être des lymphocytes T, des lymphomes T qui vont être présents. Pourquoi c'est important de les classifier? Parce que tous les traitements qu'on a ne sont pas adaptés pour chaque forme de lymphome. Leur particularité nous fait cibler nos thérapies, nos approches à ces différents sous-types. Chaque patient, évidemment, est aussi unique, et donc on doit entrer ça en considération quand on vient à parler de traitement. Il faut comprendre que tout ce qu'on va parler aujourd'hui de résultats, c'est des statistiques qui s'appliquent à des groupes de personnes et pas à des individus. Et je vais revenir plus tard vous en parler un petit peu. Alors, les sous-formes qui sont plus agressives, les quatre plus fréquentes qu'on va voir, c'est le diffus à grande cellule, qui représente 30 à 40 des lymphomes, les lymphomes périphériques à cellule T, les anaplasiques et les médiastinales à cellule B, qui sont un sous-groupe du diffus à grande cellule qui ont été disséqués dans la dernière itération du OMS. Les sous-types indolents, donc le folliculaire, c'est le plus fréquent, représentant 20 à 30 de tous les lymphomes qu'on connaît. Les lymphomes à petites cellules lymphocytaires ou des leucémies lymphoïdes chroniques, qui est la même cellule qui est anormale, mais qui a une présentation différente si ça reste dans les ganglions d'amoile, par rapport à si ça circule dans le sang, mais c'est la même maladie, là, c'est un complexe. Les maltes, les tumeurs associées avec les tissus muqueuseux, la zone marginale et les lymphoplasmocytoïdes, ou des fois appelés le Waldenstrom, sont les quatre sous-types ou les cinq sous-types indolents qui sont les plus fréquentes. Des formes spéciales, le lymphome du manteau, qui est une hybride entre les deux et puis qu'on peut avoir des caractéristiques à la fois folliculaires, indolents et plus agressifs. Le lymphome de Burkitt, qu'on appelle très agressif, est une autre sous-forme là, qui est disséquée, là, qui représente une des percées qu'on a en lymphome où on a des très bons résultats. la maladie la plus fréquente en pédiatrique, c'est avec les enfants, le lymphome de Burkitt, qui va être une des plus fréquentes. Le lymphome lymphoblastique est aussi une maladie, surtout pédiatrique, mais chez l'adulte, on peut en voir et qui nous apporte des défis spécifiquement. Les lymphomes du système central nerveux sont complètement traités à part et de la peau. On a des approches vraiment spécifiques parce que nos traitements traditionnels ne vont pas nécessairement rentrer au même niveau, au niveau du système central et au niveau de la peau. Les lymphomes associés avec le VIH sont toute une autre classe parce qu'il y a d'autres défis qui sont associés avec ça. Et les sous-types de lymphocytes T qui ont vraiment des présentations uniques avec des approches uniques aussi en traitement. Et puis malheureusement, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de vraiment rentrer en détail. Qu'est-ce qu'on doit faire à la diagnostic? C'est vraiment de voir l'étendue de la maladie, essayer d'estimer le volume de masse tumorale qui est présente encore, parce qu'on en a un qui peut être plus ou moins associé, si avec des complications, dépendamment si on a un volume petit ou grande. Et évidemment, ça nous aide à prédire des complications qui peuvent arriver. Évidemment, selon le stade, on sait qu'on doit des fois intensifier ou régresser, puis de donner moins de traitements en fonction de ce qu'on voit. Alors, évidemment, comme je vous ai dit, on a des zones de ganglions un peu partout et plusieurs d'entre vous vont avoir entendu de la moelle osseuse et de la biopsie qui est différent pour chaque patient et qui a beaucoup de mythes associés avec. Mais ça fait partie de notre bilan d'extension d'essayer d'évaluer ces zones-là pour mieux comprendre ce qui se passe. En bref, on parle de stade de maladie qui est complètement différent de grade que vous allez des fois voir intervenir. Le stade de la maladie, c'est l'étendue. Et donc, si on a une seule place de maladie par rapport à plusieurs places qui sont sur le même côté du diaphragme, par rapport aux deux bords du diaphragme, donc en haut du diaphragme ou en bas, ou encore à des places plus réservées comme la moelle, le foie ou les poumons, on peut avoir un stade 4. Comme je vous ai dit, 85 % du monde vont être touchés avec des stades plus avancés, le stade 3 et 4. Et donc, ça ne change pas. C'est une cellule qui circule dans le lymphe et dans le sang. Et donc, c'est attendu qu'on a des maladies qui sont généralement plus avancées dans la majorité des cas. On va ajouter à ça certaines caractéristiques. On parle souvent de symptômes A ou de symptômes B, et puis le symptôme B, ça représente des symptômes constitutionnels, des pertes de poids, des températures, des questions qu'on pose à nos patients à chaque visite, de savoir s'ils ont ces éléments-là. On va ajouter une caractéristique de taille de la maladie, ce qu'on appelle « bulky ». Alors, si jamais il y a quelque chose de plus volumineux, des fois, nos traitements vont être adaptés en fonction de ça. Et évidemment, si ça touche la rate, on va aussi avoir des caractéristiques qui rentrent là-dedans. Donc, pour les lymphomes indolents. Alors, qu'est-ce qui est unique avec les lymphomes indolents? En général, c'est des problèmes de destruction de la cellule. Vous comprenez que le système immune est fait pour rapidement expandre les lymphocytes pour aller attaquer une infection. Alors, il y a deux phases à ça. La première phase, c'est la croissance pour aller combattre. Par la suite, une fois que l'infection est maîtrisée, il faudrait retourner à des niveaux de surveillance. Et donc, cette décroissance ou la destruction des lymphocytes peut être perturbée par différentes mécaniques. Et donc, c'est vraiment plus une accumulation. On parle de croissance ici, mais c'est vraiment une accumulation plutôt qu'une croissance. Évidemment, c'est quelque chose qui se passe dans le temps, qui est beaucoup plus long. Et donc, rarement, les symptômes sont très présents au début de la maladie. Souvent, ça va être une ganglion qui va être découverte fortuitement. Souvent, pendant qu'ils se rasent, et tout d'un coup, il y a un ganglion qui n'était pas là la semaine passée, où on sait que traditionnellement, ça prend plusieurs mois avant de se manifester, mais c'est sûr qu'il y a un jour J où on le découvre. Généralement, les lymphomes indolents vont très bien répondre au traitement, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas aller toutes les chercher. Alors, avec nos traitements, sont ponctués par des périodes de rémission et de rechute. Et chaque ligne de traitement qu'on va donner va quand même être capable de contrôler et réinduire des rémissions, mais parfois cette rémission est moins durable. Et généralement, ce qu'on s'attend, que c'est la période de rémission va rétrécir avec chaque ligne de traitement. La plus importante forme de ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les lymphomes folliculaires. Donc, comme je vous dis, la maladie croît et décroît, des fois spontanément. Évidemment, votre système immune reste intact et puis donc on va avoir une réponse. C'est sûr que les patients sont plus au courant, mais aussi les lymphocytes, les ganglions sont plus engorgés. Et donc, des fois, on voit des changements dramatiques. Et on sait qu'on peut se permettre une période d'observation qui est des fois très difficile pour certains patients. On peut rester quand un patient est asymptomatique et on ne peut pas nécessairement complètement éradiquer la maladie. C'est important de ne pas faire des torts aux patients. Comme je vous dis, la maladie est généralement très sensible à tous nos agents qu'on peut imaginer et surtout à la radiothérapie. Et certaines formes très localisées, on va approcher rapidement. La survie médiane est généralement très longue et médiane veut dire 50 %. Évidemment, c'est des maladies de personnes plus âgées et si on a une lymphome à 80 ans, 10 ans de survie, c'est intéressant. Si c'est à 30 ans, par contre, c'est évidemment beaucoup moins intéressant. Et donc, nos traitements peuvent être aussi adaptés en fonction de ça. Les lymphomes agressifs, par rapport à ça, sont généralement des cellules où c'est vraiment plus un problème de croissance, la phase proliférative des lymphocytes qui est touchée. Alors, on voit souvent des patients qui vont développer des symptômes et souvent, c'est quelque chose qui ne peut pas attendre. Dans quelques semaines, on voit un patient qui a une masse qui grossit, qui ont des symptômes qui sont associés. Et des fois, c'est vraiment une urgence médicale parce que quelques structures sont bloquées ou peuvent nuire à la survie du patient. Les formes agressives peuvent être chez les patients plus jeunes et surtout, comme je vous ai dit, quand on parle de maladies pédiatriques, c'est surtout les agressifs qu'on voit et c'est exceptionnellement qu'on voit les formes indolentes. Par rapport à les formes indolents. Les formes agressives peuvent être guéries avec les premières impositions des traitements. Et souvent, on a une deuxième chance aussi de guérir ces patients-là. Et dépendamment du forme des réserves du patient, on peut aller chercher des guérisons très intéressantes. Le lymphome d'Hodgkin est différent du lymphome d'Hodgkin, surtout par la façon que la maladie progresse. Par rapport au lymphome non-Hodgkinien, où on peut avoir des ganglions qui vont apparaître disparaitement, donc en haut et en bas du diaphragme, dans un ordre un peu imprévisible, compte tenu qu'ils voyagent dans le sang. Par contre, les lymphomes d'Hodgkin, ce qu'on voit, c'est une progression plus ordonnée. Ça suit les vaisseaux lymphatiques, c'est une chaîne ganglionnaire va toucher celui de voisinante, et c'est rare que ça va sauter dans le sang et apparaître à distance. Et donc, cette maladie-là, on peut l'identifier plus souvent en forme précoce, et donc ça change un petit peu nos approches. Ça dit, il y a encore la majorité des patients qui vont se présenter avec la maladie plus avancée. Le lymphome d'Hodgkin était vraiment un des succès de maladie que depuis les années 50, où ça a été vraiment possible de traiter ça, on voit des taux de survie qui augmentent sans cesse. Et actuellement, les interventions qu'on fait en recherche pour essayer de mieux comprendre, mieux traiter ces lymphomes, c'est vraiment d'essayer de désescalader la puissance de nos traitements pour donner le minimum requis pour aller chercher le bien de ces patients, pour aller chercher la guérison. Donc, les traitements. Évidemment, ce que je vous ai déjà essayé de présenter le début de ma présentation, c'est que chaque sous-type peut avoir des nuances différentes. Et donc, c'est important qu'un médecin comprenne les différents enjeux pour aller cibler ça. L'étendue de la maladie est importante, la santé du patient est importante. Quelqu'un qui a beaucoup de défis de santé pourra peut-être moins bien résister à certains de nos traitements. Évidemment, les souhaits et les objectifs du patient rentrent en compte. Quand on parle d'établir un but de traitement, si c'est possible, on va toujours aller pour un but curatif. Dans certaines formes de lymphome, ce n'est pas réaliste et ce n'est pas nécessaire non plus pour avoir une survie qui est allongée. On vit avec la diabète, on vit avec l'hypertension, qui sont toutes des maladies qui peuvent être mortelles, et on essaie de minimiser leurs impacts. Les traitements symptomatiques peuvent arriver, soit basés sur l'état de santé du patient ou après qu'on a déjà tenté plusieurs tentatives de contrôler la maladie. Alors, les buts des traitements est très important et doit être individualisé. Ce n'est pas possible, avec 50 différentes maladies, de vous dire « il y a une conduite ». Il y a des tendances générales qui s'appliquent à la majorité du monde, mais il y a toujours un peu d'art qui rentre dans cette science. Des différences, il y a souvent des traitements qui sont bien établis et tout le monde est d'accord et tout le monde à travers le monde est sur la même page. Il y en a d'autres où on peut arriver à Rome dans plusieurs façons. Et donc, on peut voir des variations d'une institution à l'autre basées sur leur habitude avec les différents traitements et les complications. Et ça ne nuit pas nécessairement. Rarement qu'on a des études clairement qui démontrent une supériorité. Où on a cette évidence, c'est clair qu'il y a un gagnant. Ça va être appliqué à travers, à moins que le patient ne peut le tolérer. La question qu'on voit tout le temps, c'est quelles sont mes chances de guérir? Et évidemment, la réponse, c'est qu'on ne peut pas vous le dire. On peut donner des ordres de grandeur. Alors, les prochaines diapos, je vous tiens à mettre. J'ai déjà fait cette présentation à une place et puis on a dit, c'était très bon, mais tu n'aurais pas dû montrer ça devant ma mère. Alors, je vais vous le montrer quand même, mais je vais aller vite. Alors, il y a des facteurs cliniques et laboratoires, donc l'âge du patient, certaines tests dans le sang qu'on peut aller chercher, le stade, qui peuvent nous donner des ordres d'idées de grandeur. Le FIPI, c'est pour le lymphome folliculaire, les maladies plus indolentes. On a la même chose avec les formes plus agressives de la maladie. Donc, encore une fois, des paramètres cliniques, le stade de maladie, les sites qui sont touchés, puis encore une fois, on peut établir les taux de... En comptant le nombre de défis que le patient a, on peut établir s'il y a des problèmes ou pas à se rendre là. Le lymphome d'Hodgkin, encore, différents facteurs qui nous sont plus à risque et en additionnant les facteurs à risque, on arrive avec une échelle qui nous dit qu'est-ce que ça peut arriver. Évidemment, ces échelles-là sont utiles, mais ça ne nous donne pas tout. Première chose à noter, c'est qu'on n'a jamais des taux de survie à 100%. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs raisons pour ça, mais c'est sûr qu'aucun médecin est heureux avec cet état-là et on veut toujours aller plus loin. Alors, la première chose que je vais vous parler du protocole de recherche, il y a beaucoup de personnes qui se pensent cobayes, que ce n'est pas nécessairement dans leur meilleur intérêt. Alors, pourquoi? Quelle sorte de protocole existe? Il y a des traitements qui vont justement tester deux régimes qui ont de l'air potentiel, qui ont du vécu, mais que les Européens pensent que c'est ça, les Américains pensent que c'est ça. On teste les deux régimes pour voir quel est le meilleur en termes de résultats et en termes d'effets secondaires. Parce que le meilleur, ce n'est pas toujours nécessairement si on arrive au même but. Si on a plus de toxicité, des fois, ça vaut la différence en survie de quelques pourcentages. Toujours intéressant. Évidemment, le nouveau médication, c'est très important parce qu'on a des compréhensions du génétique et du moléculaire beaucoup plus qu'avant. Et c'est sûr que ces éléments-là nous permettent de proposer des nouvelles hypothèses et stratégies pour aller rayer ces maladies-là. Quand vous êtes présenté un protocole de recherche, évidemment, vous n'avez aucune obligation, mais il y a évidemment certains intérêts de le faire. Les avantages, c'est qu'on peut peut-être avoir un meilleur traitement qui n'existait pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont été condamnées. J'ai un patient qui était supposé il a quand même encaissé son assurance vie parce qu'on était supposé de ne pas y aller. Et puis finalement, il a répondu à ces traitements-là. Alors, c'est anecdotique, mais ça arrive régulièrement avec des nouveaux développements dans l'industrie. On peut des fois voir ça. On a accès aussi à l'infrastructure de la recherche et puis une infirmière vient avec cette recherche-là et souvent est une nouvelle porte d'entrée. Il y a un suivi plus méticuleux. Le suivi plus méticuleux pour documenter les effets secondaires d'un nouveau produit et de ses efficacités a aussi ses désavantages. On a moins de flexibilité. Si vous avez la fête, le voyage, on s'engage à respecter les délais, on rentre telle date. Il y a souvent des évaluations supplémentaires. Des fois, c'est juste des prélèvements de sang, des fois, c'est des scans, des imageries qui ne seraient pas partie du standard. Alors, on demande souvent plus de visites à l'hôpital. C'est l'avancement de science, avant tout, mais parfois, ça va nous aider personnellement. Les autres modalités de traitement, radiothérapie, c'est vraiment notre premier traitement qu'on avait. On l'appliquait dans les années 40-50 avec certains réussites. C'est pas la nucléaire. Et vraiment, c'est une énergie qu'on va cibler à une zone de tissu précis qui va nous aider à contrôler les cellules qui sont désordonnées, qui n'ont pas tous les contrôles génétiques. Très local, ça ne marche pas à distance. Le champ de radiothérapie est très restreint. Presque tous les lymphomes sont exquisitement sensibles à la radiothérapie et le problème, c'est vraiment d'être capable de les administrer partout où on a besoin de les administrer. Évidemment, ça peut être donné avec ou sans de la chimiothérapie et avant ou après, dépendamment des circonstances personnelles. Les effets secondaires, on a ce qu'on appelle une dermite, que certains parlent de coups de soleil, mais les radiothérapeutes, heureusement, il n'y en a pas dans la salle, ils n'aiment pas ça qu'on dit ça, comme ça. Le potentiel pour des toxicités au niveau des organes qui sont dans le champ sont toujours là. Il y a certains organes qui sont plus sensibles à la radiothérapie que d'autres. Comme vous voyez, là, j'aime cuisiner et la chimiothérapie est un peu comme ça. C'est une série de protocoles de recherche et puis on peut voir différentes approches. Vous avez vu le soupe alphabet qui peut des fois faire du tort, mais plus souvent est bien contrôlé et puis on comprend qu'est-ce qu'on fait. C'est sûr qu'on pousse la limite. Sans pousser la limite de ce qui est tolérable, on n'aurait pas les résultats nécessairement qu'on souhaite. Alors, comment que ça fonctionne? La majorité des chimiothérapies vont briser l'ADN ou empêcher sa migration ou son structure de support pour l'ADN. Et ça va empêcher la cellule à maintenir sa vitalité. Il peut évidemment aller partout dans le corps et il va avoir des effets sur toutes les zones proches et loin de la tumeur d'origine. Il y a plusieurs agents, une centaine à deux centaines, dépendamment comment on les compte. Il y en a qui sont données intraveineuses, il y en a qui en dessous de la peau, d'autres par bouche. Des combinaisons ou en agent seul sont toutes des options dépendamment de la forme de maladie et l'étendue. Évidemment, les effets secondaires, on est chanceux parce que pour les lymphomes, les nausées et vomissements, c'est rarement un problème, mais il y a toujours ce potentiel et il y a des approches. Perte de cheveux, ça dépend carrément dans quelle sorte d'agent qu'on va donner. Il y a toujours le potentiel. Souvent, c'est très faible avec certains agents, mais beaucoup plus fréquente avec d'autres. Fatigue, c'est presque universel après la chimiothérapie. Il y a des périodes où on est mieux et pire. Et ce qui est le plus dangereux pour la majorité des chimiothérapies, c'est le risque d'infection. On vise les systèmes qui aident à contrôler l'immunité. Et donc, c'est sûr qu'on va toucher les bonnes et les mauvaises, malheureusement, avec certains de nos agents. Évidemment, il y a des toxicités spécifiques à chaque. Pour les lymphomes agressifs, le R-CHOP, c'est celui qui est probablement le plus répandu. Ça se donne aux 3 semaines. Ça peut donner à 3 à 8 cycles avec ou sans des radiothérapies selon le contexte clinique. Le R-COP ou le CVP, souvent appelé comme ça, l'agent le plus principal donné dans les lymphomes indolents, encore aux 3 semaines, généralement de 6 à 8 traitements. L'AVBD, c'est un traitement de base pour le lymphome d'Hodgkin, généralement donné aux 2 semaines, et puis de 4 à 16 doses qui sont administrées avec ou sans de la radiothérapie. Alors, des questions avec l'alcool. Évidemment, c'est des agents qui passent par le foie, et puis donc, si votre foie est en forme, il y a probablement peu de raisons de limiter votre alcool. C'est sûr que le jour même de la chimiothérapie, c'est peut-être pas le meilleur temps. Ce qui limite surtout, c'est que les papilles dégustatives vont changer, donc les grands crus sont définitivement contre-indiqués pendant la chimiothérapie. Sexe. Alors, il n'y a aucune restriction si le patient se sent à l'aise. sauf de protéger le partenaire de risque. Tous les liquides qui sont sécrétés peuvent avoir des faibles concentrations de chimiothérapie. Et donc, on recommande des barrières pendant les premières 24 à 48 heures après les chimiothérapies, juste pour protéger d'irritation qui peut arriver avec les petites conséquences. Les cheveux, comme je vous ai dit, ça va dépendre de l'agent. Chose certaine, par rapport à moi, ça va repousser pour la majorité du monde. Exercice fortement encouragé. Évidemment, de rester plus en forme minimise les risques de complications et on doit toujours maintenir des activités où on peut toujours continuer à parler qui ne nous empêche pas. Travail, ça va dépendre vraiment de votre travail. Le gros problème, c'est que le risque d'infection est toujours présent. Si jamais vous avez un superviseur qui ne vous permet pas de vous absenter à dernière minute, c'est évidemment pas recommandé. C'est souvent moins néfaste de prendre un congé définitivement. Traitement du sport. Dans une des présentations, on avait déjà une photo de Lance Armstrong et Geneviève Janson. Donc, l'Eprex, l'érythropoïétine, est une des agents qui peut des fois aider à combattre l'anémie. Parfois, on va utiliser de la chimiothérapie. Des facteurs de croissance, le GCSF, c'est des éléments qui vont aider les globules blancs à remonter un petit peu plus rapidement. Souvent, on va donner certains de ces traitements-là. L'immunothérapie, c'est un agent un petit peu nouveau qu'on donne maintenant, où c'est vraiment, on prend les anticorps des protéines qui sont fabriquées dans le système immune, qui se visent des cellules spécifiquement. C'est une attaque plutôt intelligente, où on va aller chercher une protéine à la surface des cellules qui est surreprésentée sur les cellules tumorales. Les développements ont surtout été dans les lymphocytes B, où le CD20 est présent, mais il y a des nouvelles molécules qui sont ciblées dernièrement. Je vais peut-être avoir le temps, ça avance un peu vite, de vous en parler. Le rituximab est maintenant devenu standard dans tous les lymphocytes B, qui sont CD20, et ce qu'on voit, c'est que ça va rayer les cellules 20 de façon plus importante. Le plus gros problème de ce traitement-là, c'est vraiment des réactions allergiques, et c'est une stratégie qui commence à être plus intéressante. Radio-immunothérapie ou encore des immunothérapies conjuguées, on commence à attacher des molécules sur l'anticorps pour livrer spécifiquement notre poison directement aux cellules malades. Alors, avec la radio-immunothérapie, on met une source de rayonnement, de radioactivité collée sur cet anticorps-là qui va aller chercher les sites de lymphome et ça va avoir un effet intelligente pour aller attaquer les cellules mortes. Ça va détruire la cellule malade et juste autour de ça, et souvent les cellules malades se tiennent ensemble. Certaines sont surreprésentées par ces anticorps, d'autres moins, puis donc on va avoir un effet permissif à côté. C'est une façon d'aller utiliser la radiothérapie qu'on avait dit qui était notre premier traitement et notre plus vieille, qui est très les lymphomes sont très sensibles, d'aller le livrer proche de ce molécule-là. Évidemment, ce n'est pas nécessairement vrai pour tout le monde parce qu'on va avoir certaines toxicités s'il y a trop grande radiothérapie administrée. Même principe s'applique si on met un poison, le calithymicine ou autre molécule qui sont maintenant en recherche, qui nous permet d'aller de l'avant. Alors, les radio-immunothérapies peuvent être associées avec les deux formes de maladies. Et puis, le plus gros problème, c'est vraiment les réactions allergiques. La greffe de moelle va être occasionnellement parlée pour les lymphomes, surtout pour les formes plus agressives, mais en certains cas, avec les formes indolentes aussi. Un greffon, c'est autogreffe, c'est qu'on va aller chercher les cellules souches de le patient eux-mêmes, le protéger pendant qu'on donne une chimiothérapie à haute dose et pour contrarier les effets d'une diminution des globules blancs et des cellules de la moelle, on va redonner les cellules souches après avoir administré la chimiothérapie. Donc, surtout les lymphomes agressifs et Hodgkin qui sont en rechute, parfois on va donner ça à des lymphomes indolents et d'autres maladies comme le myélome multiple représentent une des activités les plus fréquentes. L'allogreffe est encore beaucoup plus restreint. C'est des cas très spécifiques où on va prendre les cellules d'un autre patient. Il y a des effets secondaires additionnels à faire ça parce qu'on donne non seulement une chimiothérapie à haute dose, mais on donne une nouvelle immunité, celui du donneur. Et donc ça, ça peut donner des effets secondaires beaucoup différents. Et puis donc, à date, pour les patients avec les lymphomes, c'est vraiment sur un cas par cas. Des nouveautés qui s'en viennent, que je vous ai dit qu'il y a des anti-CD20, mais aussi des anti-CD22 qui sont présents pour des lymphocytes B aussi. On a aussi des molécules d'anti-30 qui vont toucher les lymphomes d'Hodgkin et des lymphomes T anaplasiques. On a des immunomodulateurs qui commencent à avoir un rôle plus important, puis on commence à voir chaque année des nouvelles nouveautés. Un autre molécule que je n'ai pas le temps de vous expliquer, les protéosomes qui sont des agents qui sont importants pour le maintien de ce qui se passe à l'intérieur du cellule, la production des protéines. Et il y a une nouvelle classe de médication qu'on appelle les inhibiteurs de kinase de Bruton qui semble être aussi important dans certaines formes de lymphocytes. Alors, tous des éléments qui vont venir de plus en plus à la surface prochainement. Pour conclure, les lymphomes, j'essaie de vous donner qu'ils sont vraiment des pathologies qui ont le potentiel d'être guéries ou au moins de contrôler pendant très longtemps. Il y a plusieurs différents traitements qui sont possibles et disponibles. Les traitements doivent être individualisés selon le patient et la maladie. C'est important de vous informer. Et donc, n'hésitez pas à parler à votre médecin, c'est votre agent. Les pharmaciens peuvent aussi vous aider. C'est vraiment de plus en plus important que vous preniez du temps avec vos intervenants de santé parce qu'ils ont beaucoup de réponses et insistez d'avoir ça. Soyez vos propres avocats et même si on est poussé dans le temps, il faut nous demander des questions parce qu'on a beaucoup de possibilités de vous aider. Je vais arrêter là. Je suis sans doute à mon temps.
Impeccable.
Ah bon.
Vous êtes impeccable. Non, vraiment. C'est un tour de force que vous avez fait là. C'était passionnant. Évidemment, c'est beaucoup d'informations. On avait gardé une dizaine de minutes d'échange avec vous. Ce serait le fun que vous donniez un peu de feedback au Dr Olney. Il y a deux micros qui sont là. Ne vous gênez pas. Je vais partir le bal, comme ça vous pourrez... Vous avez dit à un moment donné, à moins que je n'ai pas tout à fait compris la séquence, qu'il y avait beaucoup de mythes associés autour de, je ne sais pas trop, la transplantation de la moelle osseuse ou ce que vous avez... C'est quoi ces mythes-là? Puis pourquoi on en tient compte?
Évidemment, pour les greffes de moelle, c'est un outil comme tous les autres outils qui doit être appliqué à un certain moment. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est beaucoup plus compliqué que certains de nos traitements standards. Il y a sa place. Ce que c'est vraiment une escaladation du dose de chimiothérapie qu'on donne, qui normalement est limitée par la capacité de la moelle de se régénérer. Alors, on a enlevé cette variable de l'équation en prenant des cellules souches, qui est toute une technique à part, pour le refaire. Donner plus de chimiothérapie n'est pas toujours la réponse avec les lymphomes, comme je vous ai expliqué. Si on peut faire peu de tard, surtout avec les maladies indolentes, on veut garder certaines armes. Donc, il y a des indications très reconnues. Une maladie qui va comprimer notre survie à court terme, est une maladie qu'on va considérer pour une greffe de moelle parce que les complications d'une greffe de moelle incluent le compromis de la survie à court terme. Alors, il faut toujours qu'on applique un traitement que, dans le balance, va apporter des ajouts, des bénéfices plus que des inconvénients. Alors, comme je vous ai dit, ça dépend de la type de maladie où on est rendu dans les traitements et généralement, c'est réservé pour des rechutes qui sont inquiétantes.
Donc, quand vous parliez de mythe, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ça va vite aller là. c'est ça.
Oui. Alors, les mythes, pour ça, c'est surtout les... je pense que je parlais plus de mythes autour de la biopsie de la moelle, qui n'est pas la greffe de moelle. La biopsie de moelle, c'est supposé être la pire intervention qu'on a jamais faite. La moitié de la population qui ont accouché vont vous dire que c'est vraiment loin de les pires choses que vous avez endurées. Beaucoup de personnes qui vont au dentiste vont vous dire « c'est rien par rapport à aller au dentiste ». Alors, c'est plus dans ces contextes-là que je parlais de la biopsie de la moelle et puis qu'il y a des mythes que ça doit être souffrant et puis que le monde arrive presque en tremblant quand ils entendent qu'ils vont avoir une biopsie de moelle. Et souvent, les patients ont ça puis ils disent « ah, c'est tout, c'est fini ». C'est plus dans ce sens-là que je parlais de la mythe.
Docteur Aulnay, on parle de plus en plus du développement de la médecine personnalisée,
oui,
les soins personnalisés. Comme c'est déjà très complexe, le lymphome, on parle de 50, 60 types de lymphome, est-ce que vous n'avez pas déjà pris un virage médecine personnalisée? Parce que je voyais toute la gamme de traitements possibles. Est-ce que vous êtes déjà à l'heure de la médecine personnalisée?
Il y a certains aspects que, oui, sont déjà à l'avant-garde. De cibler le molécule CD20 déjà représente une certaine individualisation de les traitements. De plus en plus, on connaît, évidemment, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, je ne sais pas si certains de mes conférenciers auront le temps d'en parler plus loin. On peut faire des analyses de l'ADN au complet de les lymphomes pour mieux comprendre certains signaux qui sont activés et qui sont ou désactivés pour causer la croissance ou l'absence de destruction de ces lymphomes. Il y a certains éléments qu'on va être capable d'aller appliquer, puis comme je vous ai dit, en identifiant le sous-type de lymphome, on va appliquer des traitements un petit peu plus pointus. Donc, les nouveautés que je vous ai mentionnées à la fin sont souvent justement plus personnalisées, et puis que j'espère, d'ici la fin de ma carrière, on va être capable de regarder en arrière puis de dire, mon Dieu, on utilisait des bombes atomiques quand on peut utiliser un stealth missile, là, puis rentrer là pour être capable d'aller cibler uniquement les cellules. On n'est pas là, mais on fait des pas d'avance chaque année. Et puis, il y a des percées, il y a des nouveaux connaissances qu'on n'a pas le temps de vous parler en détail, que chaque fois qui nous permet d'avancer. Évidemment, la recherche qui est faite par la Fondation et d'autres permet justement de mieux comprendre les mécaniques qui sont altérées dans les lymphomes, qui nous permet d'appliquer des traitements ciblés. Évidemment, certains des partenaires pour la journée qui nous ont aidés avec du financement sont très à l'écoute de ça. Les compagnies de pharmaceutiques sont des drug development qui vont vraiment être capables de nous identifier des produits super intéressants au point où le réunion global le plus important sur les lymphomes n'est plus aux 3 ans, mais est aux 2 ans parce qu'il y a un volume d'informations qui est augmenté. Alors, ça s'en vient. On a des percées. Et puis, le futur a l'air beaucoup plus intéressant.
Une autre intervention? Oui, Mme Alizé. Nommez-vous.
Je parle quand même.
Il vous parle.
Bonjour,
tout
je m'appelle Anne-Marie, je suis massothérapeute. Je viens de finir accompagnement cancer pour les personnes atteintes de cancer. Je suis travailleur autonome dans une nation maison Cercamp qui offre des services à ces personnes-là qui sont démunies, bien souvent. Y a-t-il un hôpital que vous nous recommanderiez, parce que la plupart des clients sont, ils croient plus aux hôpitaux, ils sont mal servis, ils disent plus qu'ils vont plus mourir dans leur attente ou dans les couloirs. J'ai entendu tous les cas possibles qu'il n'y a pas. Alors, est-ce qu'il y a une place, vous pourriez nous dire, qui serait plus spécifique, on va recevoir des bons soins? Parce qu'ils me disent tous, je ne mourrai pas de mon cancer, mais je vais mourir parce qu'ils me laissent pendant 8 heures sur une chaise. Il y a même un de mes clients atteint d'un poumon, qui dit « j'étais en hypothermie », puis il dit « je ne crois plus en mon oncologue, mais mon frère pharmacien me donne plus de conseils que mon oncologue ».
Oui. Alors, le problème, c'est que le lymphome se complexifie et il y a des excellences en lymphome dans tous les grands centres au Québec, mais il n'y en a pas assez. C'est le cinquième cancer. Il y a certaines personnes qui s'intéressent plus aux formes plus fréquentes. Il n'y en a pas une place au Québec qui a le monopole sur la vertu. Je pense que tous les centres qui sont reconnus par le programme de lutte travaillent pour améliorer la trajectoire de soins, qui essaient d'avoir du feedback. Ça fait partie des sondages qui sont faits par la Fondation pour essayer de mieux comprendre les enjeux. C'est sûr que je connais les individus et puis la question, c'est une question de volume et d'aide. Personne ne veut ces situations-là. On aimerait avoir des lits réservés, des salles d'urgence dédiées qui sont plus efficaces. Notre réseau, les problèmes que vous soulevez sont vraiment d'ordre de tout le réseau, dans toutes les maladies. Et il y a des aberrations qui se passent constamment. De vous dire qu'il y a une place qui a la vertu, je pense que vous pouvez tomber sur n'importe quel grand centre qui va avoir des rayonnements fantastiques et des ratés inexcusables, mais qui ne sont pas nécessairement voulus. Et donc, j'aimerais vous dire que né au CHUM, on est toujours parfait, mais c'est pas vrai.
Au CHUM, peut-être, mais moi, on m'a parlé l'hôpital de Laval, la Cité, parce qu'on m'a dit, les autres, tu vas attendre, puis au moins, eux autres, ils vont moins te prendre en main. C'est un peu ce que les...
Alors, je pense que dans un forum public, on pourrait peut-être parler plus spécifiquement. Je peux vous dire, il n'y a personne... Il faut aller chez un centre qui est prêt à se regarder et qui cherche à avoir une amélioration de la qualité puis l'expérience des patients. Je peux vous dire que c'est dans les normes d'agrément pour tous les hôpitaux au Québec. Tout le monde doit l'appliquer. Il y en a qui le font que... avant la visite d'agrément. Je peux vous dire que la majorité des centres qui sont avec les médecins qui sont représentés ici sont toujours intéressés à avoir une amélioration continue. Et c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui sont brûlées puis qui sont moins capables de relever les défis, mais il y en a beaucoup d'alliés et puis les patients sont eux-mêmes capables de faire des différences s'ils parlent avec les différentes instances qui sont dans chaque hôpital pour essayer d'améliorer ça. Pas de façon rancunière, mais vraiment d'essayer d'améliorer le système. C'est toujours mieux reçu et plus facile à adresser si quelqu'un approche en disant, regarde, c'est arrivé, comment qu'on peut améliorer ça, puis d'aider à proposer des solutions. Alors, c'est sûr que les organismes d'aide aux patients cherchent à améliorer cette situation-là. Je ne peux pas vous dire qu'il y a une place qui a la vertu. Il y a plusieurs qui essayent de faire ça et il y a de bons mondes partout. Et il faut essayer de trouver ce bon monde et travailler avec eux.
Excellent, merci.
Il y a aussi, j'imagine, des rumeurs. Tu sais. Ah, moi, j'ai vécu ça, puis là, on se dit ça. C'est sûr qu'il y a tellement des trajectoires compliquées là-dedans. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Moi, je reprendrais peut-être une observation de Mme Robson qui disait qu'il semblait y avoir une augmentation des lymphomes chez les jeunes. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? La tranche d'âge, 18, 30 ans, quelque chose comme ça?
C'est sûr que c'est la maladie la plus fréquente dans cette tranche d'âge. Il y a une petite augmentation qui est toujours présente. Les raisons de ça sont inconnues. On sait qu'il y a certains systèmes écologiques là, qui sont en train de se travailler, puis il y a des produits bannis qui sont encore dans le réseau. Il n'y a pas une seule explication pour ça. Alors, je ne peux pas vous dire, c'est un fait, un constat qui n'est pas relié à l'épidémie de VIH. C'est responsable pour une certaine partie. Est-ce qu'il y a certaines infections qui prédisposent? C'est le sujet de recherche actif et puis c'est difficile à cibler une seule cause dans tout ça. On sait que la grande majorité sont vraiment sporadiques. C'est sûr qu'on est mieux à diagnostiquer et régler certaines maladies. Il y a certaines maladies qui restent dans le réseau non détectées et on va avoir d'autres problèmes. C'est peut-être des succès dans d'autres domaines de médecine qui nous permettent de justement avoir le temps de développer. Avec les jeunes âges, c'est beaucoup plus difficile à expliquer parce qu'en principe, la latence entre un événement transformateur est généralement longue. On parle de plus de 10 à 20 ans avant qu'on va voir ça. Et donc, c'est sûr que des jeunes adultes, c'est clair que c'est un problème de visibilité et de reconnaissance.
Mm-hmm. Mais, on n'a pas pu le déceler peut-être avant ou c'était indécelable. Oui. Mm-hmm. Chers amis, je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissements, le Dr Harold Olney. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.